Quand Jean-Paul nous a demandé d'intervenir sur le thème le père et la famille. Parce que c'était en fait, on en a bien expérimenté, on a fait cette expérience au cours de ces dernières semaines, et c'était vraiment ravivé en nous de profonds souvenirs, anciens et nous récents aussi. Alors, saurais-je le faire de manière fidèle? Saurais-je retraduire les pensées qui habitaient le Père quand il nous exhortait à l'apostolat familial? Voilà, donc c'était les questions que je me posais. Et puis d'autre part également, est-ce que ça ne va pas être l'ancien combattant qui parle devant vous de ses anciennes aventures et ses anciennes guerres Est-ce que ça a eu un profit pour l'avenir? Alors, j'ai en introduction également, nous avons bien conscience que nous ne parlons pas en notre nom seulement. Tous les anciens, on va dire pour les jeunes, tous les anciens de la fraternité, ce qu'on appellera anciens, quoi, disons, on va dire, tous ceux qui connaissaient le Père, qui ont connu le Père, on va dire, tous les anciens de la fraternité ont été impliqués dans cette aventure familiale. Tous se sont dévoués, chacun à sa manière et selon ses talents, à l'animation éducative, sociale, festive de nos AFC. Alors, je ne peux pas les citer tous, car je l'en oublierai sûrement. Une mention spéciale, quand même, je ferai pour Marie-Thérèse Paragon, qui, après les exhortations du Père, a assumé cette lourde responsabilité de la présidence de l'UDAF de Moselle. Ce qui est quand même quelque chose d'important, quand on sait que les AFC de Moselle n'existaient pas, qu'elles ont été créées de toutes pièces, et que voilà. Je voudrais aussi mentionner tous ceux et toutes celles qui se sont engagés dans la formation des moniteurs de méthodes naturelles de régulation de naissance, et toutes celles également qui se sont retrouvées dans le bateau des chantiers éducation. Voilà, vaste bateau dans la vaste mer. Alors, et sans oublier toutes celles du groupe Sainte-Thérèse qui ont œuvré au coude à coude avec les familles, partageant avec nous nos espoirs, nos difficultés, nos contretemps, nos fatigues et nos joies. Voilà. Alors, puisqu'on est dans la neuvaine de Saint-Joseph, que Saint-Joseph veille sur nous, nous tous, toutes les familles et les vocations consacrées, et intercède auprès du Seigneur pour qu'il bénisse nos travaux pendant cette rencontre. Alors, en travaillant sur... Alors voilà, ça commence comme ça. En travaillant sur ce filtre de la famille, pour analyser ce qu'est le Père Marie-Joseph, je me suis rendu compte à nouveau que, en fait, le Père et la famille... Ah ben oui, ça vous allez vous retrouver des fois, avec un certain nombre d'années avant. Je me suis rendu compte que cela, en fait, le père et la famille, en fait, cela implique toute la vie du Père Marie-Joseph. L'action, on peut dire que l'action pastorale du Père a été marquée profondément par ce que on pourrait appeler une vibration familiale. Alors, voilà le plan que nous vous proposons de suivre au cours de ces deux séquences de cet après-midi qui nous sont allouées. D'abord, en préambule, les intuitions, rapidement, les intuitions du Père sur le mariage, l'amour humain et la famille, qui sera une introduction d'ailleurs à l'exposé que nous fera Père Fabien demain. Et puis après, alors, le Père et la famille, déclinés sous différents aspects. Alors vous verrez qu'il y en a nombreux. Le Père avec les familles de la fraternité. Ceux qui ont connu la fraternité, ceux qui ont connu le Père, peuvent en témoigner. Alors, on est obligé de le faire à leur nom, mais voilà. Le Père et la famille. Alors, ce qu'on appelle la dimension familiale de la fraternité. Le Père a toujours manifesté une même estime pour le mariage et la vie consacrée, pour la vocation au mariage et la vocation à la vie consacrée. On peut dire que c'est ça qui le transparaissait le plus de lui. La grandeur de la vocation du fidèle laïc, bien avant le Concile Vatican II qui a pourtant mis ça en avant. L'aventure des AFC, évidemment on ne peut pas ne pas parler des AFC au cours de cette soirée. Le Père et le travail pour la vie, et alors là ce sera Marie-France qui interviendra ici. L'étape européenne des AFC, alors je ferai court parce que le temps est imparti, mais on veut, juste un mot quand même. Les AFC aujourd'hui, alors là ça va être le rôle de Jean d'en parler. Alors, pour terminer, je n'ai pas fini le kaléidoscope. Apostolat familial et apostolat marial, pour le Père, c'était deux piliers prioritaires de la fraternité. Ça n'allait pas l'un sur l'autre. Et puis, évidemment, un mot pour annoncer et présenter la suite de la rencontre. nos liens avec vous. Alors, je ne sais pas comment on dit. Vous, Bianchi, voilà. Nos liens avec la Sainte Famille, voilà. Et puis, on termine, si vous êtes gentil, si vous êtes attentif, si vous êtes patient, par une petite surprise. Voilà. Mais ça va, c'est bon. Alors, Alors, j'ai déposé sur la table, comme j'ai pas le temps était compté, je ne pouvais pas tout dire, j'ai déposé sur la table plusieurs documents qui sont à votre disposition. J'en ai fait 40 exemplaires en général. S'il n'y en a pas assez, on peut en polycopier. Notamment, surtout, le fameux sermon du Père Marie-Joseph au pèlerinage de Rome Assise de 1972, le sermon à Sainte-Cécile. C'est vraiment un sermon fondateur, un texte fondateur du Père sur l'intuition qu'il avait sur le mariage. Et donc ça, et alors, c'est d'autant plus intéressant que, je vous l'indique, que l'an dernier, le Père Claude Sarrazin a fait toute une très belle méditation sur ce sermon, sur les sept flashs. Le Père Marie-Joseph a appelé ça les sept flashs sur l'amour. Donc vous avez les deux documents ici, et puis vous avez d'autres documents. Voilà, on commence. Alors donc on va commencer par les intuitions du Père sur la grandeur du mariage, de l'amour conjugal et de la famille chrétienne. Alors en relisant les textes du Père sur la famille, j'ai été à nouveau bouleversé, enfin émerveillé, de constater combien l'approche du Père présentait des points communs avec celle du pape Jean-Paul II. Alors, il est surprenant, c'est vrai, de découvrir combien le Saint-Esprit a travaillé simultanément le cœur de ces deux jeunes prêtres, à peu près à la même époque, Carole Wojtyła et Aloïs Gerbert, à peu près dans les mêmes années, en leur donnant un même grand amour et un grand respect de l'amour humain et de la famille. Alors, le prêtre Carole Wojtyła, le père Marie-Joseph, Carole Wojtyła disait dans un des entretiens, « Quand j'étais jeune prêtre, j'ai appris à aimer l'amour humain. C'est un des thèmes sur lequel j'ai axé tout mon sacerdoce. » Eh bien, vous allez entendre le père Marie-Joseph.
Il y a des peines, mais ici, on n'est pas au ciel. Mais on peut avoir un avant-goût du ciel. Et une fois dans ma vie, comme jeune prêtre, j'avais préparé deux braves jeunes gens par une retraite. Et j'ai eu comme une intuition, pour ne pas dire une vision, mais une intuition qui n'est pas naturelle. J'ai vu que combien c'est beau quand deux jeunes, dans la confiance en Dieu, se donnent à lui. Combien c'est grand et combien c'est beau.
Alors, sur les similitudes des intuitions entre le pape Jean-Paul II et Père Marie-Joseph, je citerai simplement deux exemples. Le premier exemple, c'est que pour les deux, ce qui les frappait, c'était que la famille chrétienne est un signe de Dieu. Alors, le père a écrit déjà en 68.
La vie du foyer connaît des heures magnifiques de joie intime, où l'union des cœurs peut donner comme un avant-goût de ce que sera un jour notre bonheur, quand ensemble nous serons avec et en Dieu, dans l'intimité de la famille de la très sainte Trinité.
Et puis, ça c'était en 68, et à la fin de sa vie, presque comme un testament.
Donc il ne faut pas rêver la vie, mais avec la grâce de Dieu, le soleil du bien et de la vraie joie que donne l'amour à temps et à contre-temps, à travers toutes les difficultés, fait vraiment de la famille chrétienne un signe de Dieu. Et c'est vrai, c'est absolument vrai, parce que la famille, pour devenir vraiment la famille comme le bon Dieu l'a voulu et comme Jésus l'a de nouveau restaurée, c'est vraiment comme une image de la famille de Dieu, la très sainte Trinité.
Alors on va trouver le même cri d'admiration chez Carole Wojtyła, devenu le pape Jean-Paul II, lors d'une audience du 20 février 1980, parce qu'il dit, dans la dimension, alors c'est du pape, hein, mais c'est très, c'est dense, mais c'est très profond, hein. Dans la dimension sponsale du corps se constitue un sacrement primordial entendu comme un signe qui transmet efficacement dans le monde visible le mystère invisible caché en Dieu de toute éternité. Et ceci est le mystère de la vérité et de l'amour, le mystère de la vie divine à laquelle l'homme participe réellement. Comme signe visible, le sacrement se constitue avec l'être humain en tant que corps et par le fait de sa visible masculinité et féminité. Le corps, en effet, est seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute éternité en Dieu et en être le signe visible. Alors le deuxième point, qui est similitude, c'est que l'être humain, l'homme, est vraiment foncièrement créé pour aimer et être aimé. Alors voilà le thème qui a été développé avec vigueur par le Père Marie-Joseph à ce sermon de Sainte-Cécile en 1972.
Dieu est amour, il est l'amour. L'homme est créé à son image. Il n'est donc vraiment homme que s'il aime, que s'il vit d'amour dans l'amour. Un homme qui n'en est pas là est un être tronqué, en déséquilibre fondamental, une caricature d'homme. L'homme qui aime et se sait aimer est heureux. Et plus il aime et est aimé, plus il est heureux, fût-il par ailleurs affligé de diverses épreuves. Évidemment, il faut un amour vrai.
Et continue.
L'amour. Nous sommes créés par l'amour, pour l'amour, un amour ineffable. Nous touchons là au tréfonds de la nature même de l'homme. C'est l'amour, l'esprit d'amour qui crée et conduit l'univers. Cet amour éclate partout, dans la splendeur du printemps, le parfum et les couleurs des fleurs, le rayonnement et les reflets de la lumière, le jaillissement des sources, le chant des oiseaux, par-dessus tout, dans le cœur de l'homme. L'amour, c'est la vie, la jeunesse, fête et béatitude, épanouissement, plénitude. L'amour, c'est la vie, l'éternelle vie. Le ciel, c'est l'amour.
Et alors, il va redonner cette conviction en 91.
On parle aujourd'hui à tort et à travers de l'amour, cette réalité la plus sainte pour laquelle nous sommes créés. L'homme est créé à l'image de Dieu. Il a un esprit, il a un corps et il a un cœur. La force, la puissance, le mystère de notre amour, de ce qui nous fait vivre. Celui qui n'aime pas d'un véritable amour et qui ne se sait pas aimer est un pauvre. Et pour aimer, il faut savoir qu'on est aimé. C'est toujours réciproque.
Et puis il reprend encore en 92.
Eh bien, cette grande pensée du Saint-Père, la famille, l'avenir du monde passe par la famille, cela vous le savez assez. Mais pourquoi? Parce que la famille est le lieu de l'amour. Et quand l'amour n'est pas là, quand on n'aime pas et quand on n'est pas aimé, l'homme n'existe pas, même s'il se démène par ailleurs et même s'il se régale. Tout cela ne sert à rien. Et si alors, par dépit peut-être ou par vice, il se jette dans tous les plaisirs, il n'est pas heureux. Au contraire, toujours plus malheureux.
Et le Karol Wojtyła lui-même, de son côté, on sait qu'il le dit d'ailleurs, son action pastorale comme jeune prêtre a été vraiment sous-tendue par cette ligne de force. L'homme, pour s'accomplir en vérité et complètement comme un être voulu par Dieu, a besoin d'aimer et de se sentir aimé. Voilà ce qu'il a écrit dans une de ses correspondances. Voilà, et c'est tiré du livre de Semaine, Jean-Paul II et la famille, qui va être à votre disposition. Marie-Paul en a pris quelques exemplaires. Tout le monde vit d'abord et avant tout pour l'amour. L'aptitude à aimer, qui n'est guère exigeante au plan intellectuel, constitue l'élément le plus fondamental de la personnalité de chacun. Ce n'est pas par hasard que l'amour est le principal commandement. L'amour véritable nous conduit hors de nous pour affirmer l'autre. Le mariage est bon s'il engendre un tel amour. Il ne suffit pas de vouloir accepter un tel amour, il faut aussi savoir le donner, et il n'est pas souvent prêt à être reçu. Bien des fois, il est nécessaire de l'aider à se former. Alors, pour appréhender, j'ai donc parlé déjà du sermon du Père à Sainte-Cécile en 72. Le Père a eu l'audace de nous dire dans son sermon qu'on va y trouver des flashs, des éclairs quelquefois fulgurants sur les diverses régions de ce royaume mystérieux et merveilleux qu'est l'amour. Le Père Claude Sarrazin, donc, lui dit, nous a fait livrer une méditation là-dessus. Et ce sermon est tellement fondateur que le Père Marie-Joseph y est revenu plusieurs fois, notamment dans son homélie en 1987.
Vous vous rappelez, il y a des années, en 1972, à la crypte de Sainte-Cécile, je vous entretenais déjà de ces grandes réalités de l'amour chrétien. L'amour animalisé n'est pas l'amour, n'est pas le mariage, c'est l'exploitation pour le malheur des personnes et des enfants. L'amour doit être spiritualisé. L'homme n'est pas un animal. L'homme est un être spirituel, créé à l'image de Dieu, vivant en conditions corporelles. Il faut donc que l'esprit et l'esprit éclairé par la lumière de Dieu et aidé par la grâce de Dieu domine la vie du foyer, la vie de famille.
Voilà, je vais passer la suite parce que c'est trop long, mais voilà.
Mais je suis aussi heureux, et tous ceux qui me connaissent le savent bien, quand je vois que des jeunes s'acheminent avec sérieux et avec simplicité, avec un désir dans leur cœur de marcher, de ne pas rater leur vie, de bien l'engager. Eh bien, alors je suis très heureux. Tous ceux qui me connaissent savent très bien. Parce que je crois à la grandeur, à la beauté, à la merveille de la famille chrétienne, telle que Dieu la veut. Dès l'origine, Jésus, notre divin sauveur, a rendu à l'amour conjugal toute sa beauté, toute sa force. Et c'est formidable. On ne le dit pas assez. Heureusement que c'est la réalité quand même, même si on ne le sait pas. Le sacrement du mariage, c'est quelque chose de fantastique quand c'est bien compris. Et comme prêtre et aimant, en fils de Saint François, sachant ce que c'est d'une famille, étant moi-même fils d'une famille profondément chrétienne, vous savez, alors on souffre dans son cœur quand on voit comment, par tous les moyens aujourd'hui, on cherche à détourner, à faire dévier le cœur des jeunes de ce qui fera leur grandeur, nécessairement leur grandeur, de bien passer leur jeunesse pour être prêt à dire « Mon Dieu, je me voici ».
Alors, maintenant on passe au deuxième point, le père avec les familles de la fraternité. Le père on va dire que tous ceux qui le connaissent, qu'on l'a connu, on peut en témoigner, il a vraiment exercé vis-à-vis de nous, d'ailleurs la sœur Thérèse l'an dernier nous en a parlé, un charisme de paternité. Et il faut bien dire que quand le père nous a quittés, on s'est tous retrouvés plus ou moins orphelins. Et un charisme de paternité, il a enfanté, on peut dire, dans la foi chacun des membres de notre famille. Communion aux joies, aux épreuves, aux difficultés, apaisant les conflits, prodiguant encouragement et réconfort, célébrant des baptêmes, étant avec ses familles, là, c'est les jeunes foyers, il était à Sarreguemines. Voilà, un jeune foyer aussi, là. Célébrant des mariages, voilà. Et alors, plus d'une fois, quand nous allions le trouver, nous l'avons trouvé épuisé par les entretiens qu'il avait eus avant nous. Il respirait profondément, fixait ses yeux sur l'une ou l'autre des images saintes fixées au mur, et ne manquait pas alors de dire « Heureusement que le bon Dieu m'a donné une grande foi ». Alchimie étonnante, nous déversions nos fardeaux et repartions de l'entretien avec le Père, le cœur léger et dans la paix. Le Père nous en livre une confidence lors de la fête de la Sainte Famille de 1992.
J'aurais pu pleurer, je répète, j'aurais pu pleurer de joie parce que la veille au soir, mon cœur était opprimé pour plusieurs raisons. Pensez bien, vous avez des soucis. Vous croyez qu'un prêtre n'a pas de soucis ? Toutes vos peines et toutes vos joies, ce sont les miennes, sinon mon cœur n'est pas un cœur de prêtre et surtout pas un cœur de fils de Saint François.
Voilà, alors la troisième affaire, c'est la prise en compte de la dimension familiale dans la vie de la fraternité. On pourrait résumer ça sur le concept d'une fraternité de type familial. Alors la fraternité, effectivement, au fur et à mesure des années, s'est diversifiée en plusieurs groupes, comme d'ailleurs nécessairement, d'ailleurs, pour tenir compte des besoins des uns et des autres. Il y avait le groupe des aînés, qui parlait en patois, c'était plus compliqué, pas de place. Le groupe des foyers, le groupe des enfants, le groupe des cordiales, la jeunesse AJF qui s'est développée progressivement, puis même le groupe des ados, donc, qui était à cette époque-là intermédiaire, puis qui est devenu les Dominique Savio et Maria Goretti. Pour chaque groupe, des réunions spécifiques, etc., des pèlerinages, des camps d'été pour les enfants, avec tout ce que d'ailleurs cela impliquait pour les enfants, s'impliquer de jeunes qui s'engageaient dans l'encadrement de ces camps et que le père ne cessait de motiver et d'encourager. Alors je donne quelques photos pour le plaisir. Quoi. Voilà, c'est le premier camp sous tente de Cordigère filles à la maison forestière du Horcop en 1969. avec la journée des parents à ce camp des 1969. Après, il y a différents camps. Vous voyez le père, là, célèbre des messes, c'était à Buxenberg, c'était à Dauenthal. Là, c'est à Dauenthal et à Biesenberg. Là, c'est une journée des parents. Alors, vous voyez le père très attentif. Il y a un spectacle donné par les cordigères. Ici, à gauche, vous avez, c'est Biesenberg avec Gérard Midon, le prêtre Gérard Midon, le frère Marie. Et au-dessus, c'est à Obersteinbach, avec une interview qui a été prise en vidéo et qu'on n'arrive pas à retrouver du père qui était magnifiquement. Et puis là, une fête de Obersteinbach. Après, il y avait le groupe des adolescents, voilà, de cette époque, et les gens qui ont pu se retrouver. Voilà. et la jeunesse franciscaine, c'était là à la suite d'un pèlerinage à Romassise où les jeunes sont restés plus longtemps que les foyers, mais le père est resté avec eux quelques jours. Bon, alors là, les messes avec le père Dubois, bon, quelques photos de montagne. Et une photo là qui était, ouais, voilà, vous voyez des gens que vous connaissez, certains en tout cas. Voilà. Alors, mais, veillez, mais, voilà. En même temps, le père cherchait continuellement à favoriser, tout en ayant ses groupes spécifiques, il cherchait à favoriser les mélanges. Toujours, souvent, une poignée d'adultes dans les messes des JF ou des enfants. Très souvent, des enfants au sein des pèlerinages avec les adultes. Enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Les familles étaient toujours conviées à partager un bout de journée avec les aînés. Voilà. Le père veillait en fait attentivement à ce que l'unité de la fraternité ne soit pas distendue par l'existence de ces groupes. Parce qu'il dit dans une circulaire de 69.
Le camp des JF à Weiler finira le lundi 14 juillet. Pour promouvoir l'unité grandissante entre les groupes de la fraternité, il fut décidé de faire cette année encore la sortie traditionnelle des foyers à Weiler-Wissembourg pour ce jour-là.
Et puis il redit encore une autre fois.
Cette fois, nous irons à Bliskastel. Ce sera une journée pour tous les groupes et tout le secteur. Ainsi, nous aurons l'occasion de mieux réaliser l'esprit de famille à travers toute la fraternité.
Et alors, une nouvelle fois, dans une circulaire commune.
Cette circulaire s'adresse aux foyers, aux jeunes, au groupe Sainte-Thérèse. Un peu de tous les côtés, on se rend compte que, formant une seule et unique fraternité, les contacts intergroupes s'imposent et certaines expériences de ces derniers mois en ont manifesté le bien et le réconfort. Les foyers et le groupe Sainte-Thérèse doivent porter la JF et les enfants de la fraternité, petits et grands. Nous aurions intérêt à nous rapprocher aussi par une circulaire commune, du moins de temps à autre.
Et puis, c'est une circulaire de 1977.
Elle est belle, la fraternité, me disait ces jours-ci une jeune maman éprouvée et un père de famille nombreuse. Elle est belle au regard des divers dons, qualités et vertus des uns et des autres. Oui, elle est belle, malgré et à travers même les ombres et les insuffisances d'ici-bas. La famille franciscaine, dans l'unité de ces trois ordres, est, en soi, quelque chose de merveilleux, liant en profondeur, dans un même élan d'amour, prêtres, religieux-religieuses et laïcs, hommes et femmes, jeunes et adultes, aînés et enfants même. Merveille que le Seigneur veut opérer jusqu'à la fin des temps par son serviteur François.
Alors, le quatrième point, le père entouré d'une même estime, la vocation au mariage et la vocation à la vie consacrée et aussi la vocation à la vie au sacerdoce. Nous avons été tout de suite, nous, dès qu'on a rencontré le père, impressionnés par la haute estime que le père attachait à la vie consacrée. Le père avait eu très tôt l'intuition de l'importance de la présence de personnes consacrées au cœur même de la fraternité. À peine avait-il prêché devant des institutrices avant la guerre qu'il suscitait parmi elles des vocations consacrées dans la vie religieuse mais aussi dans le monde, et même au sein de la fraternité, ce qui était en avance par rapport à ce que pouvaient penser les uns les autres en France. Mais en même temps, le père nous montrait toute la beauté et la grandeur de la vocation du mariage et de la famille. Il ne pouvait pas parler de l'appel à la vie consacrée sans parler aussi du mariage, et réciproquement. La traduction concrète en a été pour nous un coup d'à-coup quotidien avec les consacrés du groupe Sainte-Thérèse dans l'animation de la fraternité comme dans l'apostolat pour les familles. Je regarde personne. Le père ne pouvait pas célébrer un mariage sans parler de la vocation celle de la vie consacrée. Là, par exemple, le mariage, c'est pas ce mariage-là, mais là, c'est la photo du mariage qu'il avait été, je crois qu'il avait célébré, mais il y était en tout cas, de Roger Lehmann.
Pour parler, oui, avec le groupe de ceux, des jeunes parmi nous, que le bon Dieu a appelés, je n'ose pas dire tout près de lui, parce qu'il appelle tout le monde tout près de lui. Pour être tout à lui, il appelle tout le monde à être tout à lui. Il veut s'y tourner à tous. Mais il y a des manières différentes. Et c'est une merveille, le mariage chrétien. Et c'est une autre merveille réciproque. Le don total, je n'aime presque jamais dire ce mot, le don total. Parce que mes parents, un jeune homme, une jeune fille qui se marie, comme le bon, dans le sens du mariage, que le bon, comme le bon Dieu l'a vu, mais c'est aussi un don total.
Et dans une circulaire de 76.
Quelle joie d'apporter fort et ferme dans la foi et la confiance en Dieu notre part pour la construction et la sauvegarde de la famille. La vie intérieure, la prière, et la famille sont les deux objectifs prioritaires de l'ennemi Satan dans son irréductible combat contre Dieu et les hommes. La famille d'une part, et d'autre part, autre volet du même tableau, les vocations de don total au Seigneur et à l'Église par la consécration religieuse, Dieu soit béni pour les progrès du groupe Sainte-Thérèse, et la consécration sacerdotale.
Parlant de la famille, il ne faudrait pas oublier l'autre vocation, la virginité ou le célibat consacré. Au seuil de l'Église, il y a Marie, la Vierge des Vierges. Les deux vocations sont complémentaires. L'amour consacré est un trésor inestimable pour le peuple de Dieu. Le sens de cette vocation, voici. Mère Teresa disait aux prêtres, « Vous êtes devenu un prêtre pour donner Jésus. Vous n'êtes pas seulement un assistant social. Soyez amoureux du Christ. » Cela vaut pour toute personne consacrée. Être amoureux de Jésus, ce sera là un grand bien pour toute l'Église, un bénéfice pour la famille chrétienne.
Et en 87,
la vie ne sera sauvée que par Jésus-Christ qui est vivant. Or, la première institution que Dieu avait créée, c'était la famille. Et c'est la famille qui conditionne aussi l'autre vocation, l'autre amour qui va en direct vers Dieu, l'amour consacré, sacerdotal ou religieux.
Une année après.
C'est pour cela que nous avons besoin des deux vocations. Le Saint-Père, en familiaris consortio, a tellement uni les deux vocations. L'une ne va pas sans l'autre, et chacune a besoin de l'autre. Les gens mariés ont besoin d'être aidés dans ce qui est la sécurité profonde de l'épanouissement de leur amour, ce qui n'est pas donné d'emblée.
Et puis en 90,
vous savez très bien que le bon Dieu m'a donné le sens et l'amour de la famille, c'est normal, mais aussi en même temps le sens de la vocation consacrée, c'est indissoluble, c'est la même réalité vue dans le plan de Dieu, c'est complémentaire. C'est pourquoi, parce que j'aime la vocation consacrée, j'aime d'autant plus les familles. Et parce que j'aime les familles, j'aime d'autant plus les vocations consacrées.
Le Père nous conduisait dans les pèlerinages régulièrement sur la tombe des parents. À Lourdes, par exemple, nous étions en général les seuls à aller au cimetière pour aller chercher la tombe des parents de Bernadette. Les parents de Bernadette n'ont pas été canonisés, mais le Père tenait à les honorer et à leur exprimer sa reconnaissance pour avoir donné la vie à Bernadette et ne pas avoir ménagé leur peine pour son éducation. À Lisieux également, on est allé sur la tombe des parents qui étaient derrière la basilique. Et le Père doit être heureux aujourd'hui, maintenant que les parents de Thérèse ont été béatifiés, lui qui aimait tellement Sainte Thérèse et ses parents, et qui nous avait prédit que ses parents seraient un jour béatifiés. Voilà, ils ont été béatifiés le 19 octobre 2008. Et donc, rien d'étonnant que bien des vocations consacrées aient fleuri au sein de nos familles tertiaires, mais aussi combien ces personnes consacrées ont enrichi et soutenu nos familles. Alors, on arrive au point maintenant, grandeur de la vocation du fidèle laïc. Le père Marie-Joseph témoignait d'une grande estime pour la vocation des laïcs. Pour lui, ils n'ont jamais été des chrétiens au rabais. Il croyait profondément qu'ils étaient appelés eux aussi à la sainteté, tellement que, bien avant le concile, qui a su si bien mettre à l'honneur la vocation du laïc, dans l'apostolat du laïc, le père s'est engagé de toutes ses forces à promouvoir le tiers-ordre comme école de vie évangélique bien appropriée à leur vocation. Pour le père, le laïc chrétien se doit de participer à la mission de l'Église, à sa manière propre, au sein des réalités quotidiennes, en animant le monde temporel par les valeurs évangéliques, dans sa famille, son travail, etc. Alors, évidemment, le temps aujourd'hui ne va pas suffisant, on ne va pas s'étendre, mais c'est un point qui me permet de suggérer qu'il mériterait probablement, dans une autre rencontre, que ce qu'on approfondisse et qu'on développe. Je trouve que le père a eu par rapport à nous une relation qui n'était pas une relation de cléricalisme. Et c'est une bonne relation en vérité, où il nous respectait tout à fait et il nous exhortait il nous envoyait en mission dans notre champ du monde temporel pour travailler en tant que laïc dans le monde et non pas uniquement comme consacré. Alors rappelons simplement, pour aller plus vite, que le père veillait attentivement, à côté et parallèlement à notre formation spirituelle, à notre formation humaine et sociale, on va dire. Ainsi, voilà, je vous donne la photo d'un cercle d'études Saint-Corat en 1952. Et c'est pas tout lourd. Le père est au milieu, là, hein, il tient l'oreille. Et cette exclamation du père dans une circulaire de 1975.
Quelle chance et bienfait pour toute la fraternité de compter en son sein un bon groupe soucieux d'approfondir les problèmes d'ordre philosophique et social. C'est conforme au désir de l'Église et répond à un vrai besoin. Tenons bon.
Alors, bon. et ce rappel donné, je vais vous le donner tout de suite, par le père, déjà en 1979, sur l'importance de la doctrine sociale de l'Église. En 1979, il faut vous rappeler que dans l'Église de France, c'était quand même pas, on ne parlait pas beaucoup de la doctrine sociale de l'Église. C'était en 1979 qu'il y a eu l'appel de Jean-Paul II à Puebla qui a relancé la doctrine sociale de l'Église. Mais en France, c'était plutôt pas très éclatant. Mais voilà ce que dit le père.
Les laïcs, à travers l'année, outre leurs soirées de réflexion, organisent des week-ends à Saint-Avaux. Ici, c'est un penseur rigoureux, Marcel Clément, qui a fait une journée magistrale sur la doctrine sociale de l'Église, enseignement bien dans le sens d'un esprit et d'un engagement évangélique franciscain. En effet, pour que la doctrine sociale soit efficace, faut que les chrétiens vivent un certain esprit de béatitude. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les doux. Sans cet esprit, esprit de pénitence évangélique, point de monde plus juste, plus fraternel. La paix, la joie de vivre sont à ce prix.
Alors, je dirais pas plus là-dessus. Alors, on arrive maintenant, évidemment, à le point un peu central pour nous, en tout cas, qui a été l'aventure des AFC, point d'exclamation. C'est vraiment été une aventure. Parmi tous les champs d'action qui se présentaient à des laïcs, s'il y a bien un apostolat qui a été au cœur des préoccupations du Père, ce fut bien, effectivement, l'apostolat au service des familles, au service de la famille. Alors, vous savez, les années 70, on a connu, toute une série de phénomènes avec des indicateurs sociaux qui étaient en train de décliner ou d'augmenter selon les cas, augmentation des divorces, légalisation de l'avortement en 1974-75, méfaits apportés par la contraception, pilules vendues aux mineurs, puis beaucoup de débats troublants dans les médias, une dérive notoire des mœurs qui n'a pas tellement diminué, alors on se demandait que faire. Le père en était très affecté et ses homélies étaient toujours remplies de cette préoccupation pour lui. Et voilà ce qu'il ne cessait de redire. C'est un entretien qu'il a eu en 88, mais qui correspond à ce qu'il a toujours dit pendant toutes ces périodes, cette année.
Où en est la famille aujourd'hui? Il n'est pas besoin de vous le dire. Elle est tellement attaquée, agressée, et de manière si subtile que même les meilleurs chrétiens, quelquefois, ne s'en rendent plus compte. Quand les choses se répètent, c'est banalisé. On est habitué aujourd'hui à ce que les jeunes cohabitent et prétendent ainsi préparer leur mariage. Il est devenu normal qu'on ne se marie plus à l'église. Il est tout à fait normal pour certains que le fruit de l'amour, l'enfant, gloire du mariage et un signe, don de Dieu, puisse être tué dans les premiers jours de son existence. Nous vivons ces temps-là. Et cela fait problème même à l'intérieur de l'Église où certains chrétiens rejettent l'encyclique Humanae Vitae. Le problème de la famille est très grave.
Alors, nous nous demandions comment réagir face à cet environnement de la société, comment survivre d'ailleurs même en tant que famille dans un tel contexte. Dans les années 73-74, une conférence donnée à Saint-Avold nous donne une information sur un mouvement des AFC, Association Familiale Catholique. Bon, la conférence n'était pas exaltante. Bon, enfin, je le dis pour la vérité des choses. Mais à la sortie, on nous a distribué un livret de présentation du mouvement qu'on a découvert. Et en fait, la lecture de cette brochure nous a interpellés parce qu'on s'est rendu compte que là, il y avait un outil juridique à notre disposition pour... Et nous comprenions que cette formule qui nous était ainsi proposée permettait aux familles catholiques d'apparaître en tant que famille comme des actrices de la vie publique et sociale. Alors bon, on n'a peut-être pas fait grand-chose, mais le Père nous a encouragés fortement à nous lancer là-dedans, alors que le mouvement n'était pas exaltant au début, pas très reluisant. Enfin, vraiment, par contre, l'intuition nous paraissait très bonne. Des contacts sont pris avec les responsables nationaux. Nous participons ainsi, la fraternité toute entière, participons à la création des AFC en Moselle en 1974, à partir de rien. Hein. C'était du non-être avant, et après c'est devenu l'être. Et ben, je vous assure que quand le contexte clérical dans ce contexte-là est difficile des fois d'admettre qu'il y a du à partir du non-être c'est de l'être, ce n'est pas évident. Alors nous avons participé avec quelques cadres des houillères de Saint-Avold, mais surtout avec un fort engagement de tertiaires, de Biche, de Sarreguemines, et sans oublier Alstein. Voilà. J'en dirai pas plus d'Alstein, mais vraiment, à qui nous devons la première AFC de Moselle. Voilà. Voilà, oui. Très vite, tous les talents de la fraternité ont été exploités, de la musique et la danse, jusqu'à la vente de livres, et les pâtisseries, et même faire cuire des saucisses. Et je me suis retrouvé président de cette toute nouvelle fédération de Moselle. Très vite, les AFC de Moselle sont repérés par leur jeunesse, par leur vitalité, disons, par M. Reverdy, le président national, et il vient assister avec Mme Christiane Moiret, jeune femme magistrat, membre du Conseil national des AFC, à notre première journée départementale AFC en 76. Il est intéressant de noter que le père n'a pas hésité à cette occasion, un titre tout à fait exceptionnel, de faire que cette journée des AFC tienne lieu de réunion de la fraternité avec un programme des danses folkloriques données par la GIE. Voici comment le père commande cette journée.
Pour la première fois, la journée des AFC, Association Familiale Catholique du Diocèse, notre fraternité y a pris une grande part. Très bel office d'abord pour tous les foyers accompagnés de beaucoup de leurs jeunes à la basilique. Sous le regard de Marie, notre mère et reine, nos jeunes, après le repas, ont dégagé toute l'assemblée par leurs évolutions joyeuses et gracieuses. Chers amis, une telle joie des enfants de Dieu réjouit le cœur de Dieu et le cœur de tout homme simple et droit. À vous les jeunes, au nom de tous, merci et en avant.
Hein? Je la laisse un peu quand même, cette photo-là. Alors, En novembre 80, premier grand pèlerinage national organisé par les AFC à Rome, à Rome Assise. Et le père Marie-Joseph n'hésite pas à s'inscrire comme prêtre à ce pèlerinage. Et voilà ce qu'il nous en redit.
Rome, journée AFC, novembre 80. Association familiale catholique. Espérance, grande espérance, ces nombreux foyers qui, dans un monde plus ou moins dégradé, s'évertuent à aller leur chemin selon le dessein d'amour de Dieu et deviennent ainsi lumière du monde et celle de la terre. Lumière du monde, celle de la terre, confiant dans la grâce de Dieu malgré tous les obstacles.
Et puis, tous les ans, il y avait une journée maintenant départementale, elle a mise en place. Et celle de 1980, voilà comment le père la commente.
Les AFC, Association Familiale Catholique, sont un lieu privilégié pour faire travailler ensemble des membres de groupements de vie évangélique avec d'autres laïcs. Regarde sur la journée annuelle AFC qui a eu lieu à Beach, avec comme thème principal l'éveil de la foi chez les tout-petits. Entendons quelques extraits de la lettre du Saint-Père concernant le synode des évêques qui précisément en cette année traite les grands problèmes de la vie familiale. Dans la famille, dit le Saint-Père, naissent des membres nouveaux de la cité des hommes dont la grâce de l'Esprit-Saint fera par le baptême des fils de Dieu pour que le peuple de Dieu se perpétue tout au long des siècles. Cette image divine de la famille renouvelée et sanctifiée par Jésus-Christ est souvent à notre époque appauvrie, obscurcie et peut-être même profanée. Il faut par conséquent réfléchir encore aux paroles de Jésus-Christ. Au commencement, il n'en fut pas ainsi. Il faut que le synode manifeste ce que veut dire le Christ dans la vie conjugale et familiale. Oui. Il faut que les familles d'aujourd'hui se ressaisissent, il faut qu'elles suivent le Christ. Encore, il faut que les familles d'aujourd'hui se ressaisissent, il faut qu'elles suivent le Christ. Prions avec le Saint-Père. Ô Dieu de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, toi, Père qui es amour et vie, fais que sur cette terre, chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour pour les générations qui se renouvellent sans cesse. Par ton Fils Jésus-Christ, né d'une femme, et par l'Esprit-Saint, source de charité divine. Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux vers le plus grand bien de leur famille, de toutes les familles du monde. Que les jeunes générations trouvent dans la famille un soutien inébranlable qui les fasse croître dans la vérité et dans l'amour et les rende toujours plus humaines. Que l'amour affermi par la grâce du sacrement de mariage soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises que connaissent parfois nos femmes. Enfin, quand toutes les nations de la terre, l'Église puisse accomplir avec fruit sa mission dans la famille et par la famille, nous le demandons par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth. Toi qui es la vie, la vérité et l'amour dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors à partir de ce moment, on commence à se nouer, donc je disais, des liens étroits entre l'équipe nationale des AFC et notre fraternité. Et on peut dire que notre vie de foi, nous, étant nourrie par notre appartenance à la famille spirituelle de franciscaine, nous pouvions envisager de nous engager dans un mouvement d'action temporelle sans mélanger les genres. Ne pas faire des AFC qui ont des responsabilités dans la vie publique, sociale, un mouvement de prière. Voilà. Mais ils travaillaient en tant que chrétiens, nourris dans leur vie spirituelle par leur appartenance à la cellule d'église qu'est la fraternité. Je pense que c'est peut-être ça qu'on a apporté le plus original, disons, de vrai, au mouvement dans son ensemble, et qui, dont M. Reverdy était très heureux qu'on puisse faire cet apport. Et de là, après, de ce fait-là, se sont noués des liens vraiment de confiance entre l'équipe nationale des AFC et, on peut dire, le père Marie-Joseph. À partir de 80, les camps cordigères se voient offerts également aux enfants des familles AFC de la région. Les familles AFC étaient ainsi mises en contact avec la fraternité et parfois, ou même souvent, demandaient à y entrer. Les AFC de Moselle, terrain d'engagement d'une forte équipe de membres de la fraternité, le tertiaire, les AFC devenaient ainsi tout naturellement, en retour, un terreau de vocation tertiaire. Et on peut dire que le père Marie-Joseph était de plus en plus exercé, je pense, une influence certaine sur les grandes orientations du mouvement au niveau national à cette époque-là.
L'âme mue par l'esprit d'amour devient celle de la terre, lumière du monde. Multiples et variés les engagements apostoliques en fraternité. Un apostolat prioritaire, l'évangélisation de la famille, la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur le dessein d'amour de Dieu sur l'homme fait à son image. La bonne nouvelle sur l'amour conjugal est une merveille de sagesse et de tendresse pour l'homme de bonne volonté. Les méfaits de la contraception, cependant, font des ravages épouvantables et ruinent tout amour vrai. Il importe souverainement d'avoir la lumière de l'Esprit Saint et sa force pour vivre et faire vivre un amour vrai et beau dont la maîtrise de soi est une juste régulation des naissances.
Alors je vais passer là, parce que tant pis, vous verrez plus tard. Voilà, pour dire que le contexte d'aujourd'hui a bien évolué par rapport à cette époque. Les modalités concrètes de nos engagements sont maintenant peut-être différentes, mais les tendances de fond n'ont absolument pas changé, ça on peut vous en témoigner. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai trouvé récemment, j'ai tombé sur l'homélie que le pape Benoît XVI a fait le 5 juin 2011 dans la messe des familles à Zagreb, en Croatie, mais une homélie qui, on voyait visiblement, qui s'adressait à toute l'Europe, sur la vocation missionnaire des familles. Et cette homélie pourrait presque être, je ne suis plus aux AFC en tant que responsable, mais je me permets de le suggérer, ça pourrait être presque une charte des AFC du troisième millénaire. Voilà, donc voilà ce que dit le pape. Je désire vous dire combien j'apprécie l'attention et l'engagement envers la famille. Non seulement parce que cette réalité fondamentale aujourd'hui doit faire face à des difficultés, il y a des menaces, et qu'elle a donc besoin particulièrement d'être évangélisée et soutenue, mais aussi parce que les familles chrétiennes sont une ressource décisive pour l'éducation de la foi et pour l'édification de l'Église comme communion et pour sa présence missionnaire dans les situations les plus diverses de la vie. Le bienheureux Jean-Paul II affirmait que la famille chrétienne est appelée à prendre une part active et responsable à la mission de l'Église. Ça, je crois que cette phrase est très importante. La famille chrétienne est appelée à prendre une part active et responsable à la mission de l'Église d'une façon propre et originale, en se mettant elle-même au service de l'Église et de la société, dans son être et dans son agir, en tant que communauté de vie et d'amour. C'est dans Familiaris Consortia, Benoît XVI le souligne. Et il continue. À côté de la parole de l'Église, le témoignage et l'engagement des familles sont très importants. Votre témoignage concret, surtout pour affirmer l'intangibilité de la vie humaine, de la conception à sa fin naturelle, la valeur unique et irremplaçable de la famille fondée sur le mariage et la nécessité de mesures législatives pour soutenir les familles, pour engendrer et éduquer les enfants. Chères familles, soyez courageuses. Ne cédez pas à la mentalité sécularisée qui propose la cohabitation comme une préparation ou même une alternative au mariage. Montrez par votre témoignage de vie qu'il est possible d'aimer, comme le Christ, sans réserve, qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager pour une autre personne. Chère famille, réjouissez-vous de la paternité et de la maternité. L'ouverture à la vie est un signe d'ouverture à l'avenir, de confiance dans l'avenir, De même, alors ça c'est bien aussi, cette phrase est magnifique. De même que le respect de la morale naturelle libère la personne au lieu de l'humilier. Et il termine, le bien de la famille est aussi le bien de l'Église. Voilà. Je souligne que Benoît XVI rappelle ici l'importance de l'apport irremplaçable et très concret du témoignage des familles chrétiennes. Avant toute chose et avant toute parole, l'Église attend des familles chrétiennes qu'elles apportent un témoignage de vie au monde. Oui, il est possible d'aimer et d'être aimé en vérité.